Bonjour à tous. Comme un vendredi, l'intolérance raciale et ethnique, la montée du populisme, la haine de l'autre, une figure du mal, celle du vénérable W, moine birman extrémiste, dans la caméra de Barbet Schroeder, notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, la plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie, disait Paul Valéry. Eh bien, ça tombe bien. À l'occasion des états généraux de la poésie qui s'ouvriront mercredi à Paris, ils vont malgré tout tenter de nous en donner une définition plus précise, leur définition. En tout cas, Olivier Barbaran et Thomas Clair sont nos invités tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
L'état d'urgence poétique est donc déclaré. Organisateur de l'événement, le poète Olivier Barbaran, spécialiste de Louis Aragon, dont il a dirigé la publication de l'œuvre poétique Dans la Pléiade, ses odes dérisoires et autres poèmes, une anthologie, sont à lire chez Gallimard. Bonjour à vous, Olivier Barbaran.
Bonjour.
Avec le comédien et monsieur poésie de France Culture, Jacques Bonnaffé, en président d'honneur, le 35e marché de la poésie s'accompagnera donc d'états généraux. La manifestation commence à Paris, dans le quartier des Lettres, vers Saint-Sulpice, avant de s'étendre au reste de la France, comme une vague de chaleur. Et ça tombe bien, nous sommes déjà au mois de juin. La poésie est en crise pour vous, Olivier, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une crise de foi, un mal au cœur? Pourquoi ces états généraux? Quelle urgence y a-t-il à convoquer la poésie et à réfléchir sur son sens aujourd'hui?
Précisons tout de suite, par diplomatie, que je ne suis pas organisateur des états généraux. J'ai eu le bonheur d'y être invité, et invité d'ailleurs pour les alentours des états généraux.
Je n'ai pas dit que vous étiez le fondateur, l'esprit suprême, le guide, mais vous y participez.
Mais j'y participe et j'y participe parce qu'il me semble que si la poésie n'est pas en crise, il y a à s'interroger sur la possibilité de sa transmission. Ma contribution, puisque nous avons déjà siégé à l'ENS il y a 2 jours, pour une question qui était poésie et université, qui paraît un peu scolaire comme cela, mais ma contribution portait surtout sur cette dimension, c'est-à-dire il y a là un nœud vivant de création, disparate, riche, très riche, peut-être un peu essaimé, dans lequel il semble qu'on ait du mal à s'organiser, à se représenter, et que le public ait du mal à s'orienter tout simplement, et sans doute doit-on réfléchir à cette étrange situation de la poésie qui, dans l'expérience d'enseignement qui est la mienne par exemple, est à la fois toujours une découverte de la part des élèves et systématiquement pour nous un levier, c'est-à-dire que l'accès à la littérature est réussi lorsqu'on a réussi à transmettre de la poésie et souvent le public la découvre avec une grande joie et en même temps on a l'impression que c'est toujours une redécouverte. Voilà à peu près l'état. Pour le reste, la formulation d'états généraux, Michel Collot, qui a fait partie des organisateurs, lui véritablement proposait avant-hier cette formulation que je trouve assez juste en s'inspirant des états généraux eux-mêmes, qui était de reprendre la déclaration des états généraux, qu'est-ce que le tiers-état tout, que représente-t-il rien, qu'est-ce que la poésie, sans doute tout, est-elle représentée, pas vraiment.
Il y aura un livre blanc peut-être à l'issue de ces états généraux qui permettront de faire un bilan et des propositions pour renforcer la poésie. C'est vrai que dans les états généraux, on pense à état de santé, mais aussi à état des lieux, à cette idée d'inventaire, des différentes démarches créatives. Il n'y a pas une, mais des poésies vivantes et singulières aujourd'hui. Le poète et philosophe Martin Rueff, qui participera lui aussi à cette manifestation, pense que c'est pas tant la poésie qui va mal que les conditions de sa réception. Il y a un problème de diffusion des livres aujourd'hui, pour vous ?
Oui, bien sûr. Il y a un problème de diffusion des livres. Il y a véritablement une prise en charge par la poésie de petits éditeurs très 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 courageux, mais dont les questions de diffusion rejoignent les problèmes de diffusion de la littérature aujourd'hui. Pour ma part, je pense à la différence peut-être de certains de mes collègues avec lesquels nous avons discuté et nous continuerons à discuter, que en la posant exclusivement sur la poésie, la question est un peu mal posée. Ce qui, à mes yeux, ne va pas, c'est la littérature. Au sens où le succès du roman ne me paraît pas être un succès pour des raisons littéraires, mais pour des raisons étrangères peut-être même à leur littérarité. C'est la sociologie, c'est la psychologie, c'est le récit qui intéresse dans le roman, bien plus que son écriture. Et c'est peut-être ce rapport à la langue et à l'écriture qui lui est en crise en effet, et pour lequel il semblerait que des états généraux s'imposent et où la poésie a son rôle à jouer.
Rapport à la langue, voilà. Et la poésie travaille justement sur ces formes. Il y a quand même, en même temps, vous dites un peu crise de la diffusion du livre, mais on a le sentiment qu'il s'en publie encore beaucoup. Des recueils, des grandes maisons d'édition ont des collections qui lui sont dédiées. Des intellectuels en font l'éloge répété d'Alain Badiou qui s'interroge. Que pense le poème à Jean-Pierre Siméon, le directeur du Printemps des Poètes, qui postule que la poésie sauvera le monde. C'était en 2015. Et puis, il y a des romanciers qui s'y convertissent à la poésie. À vos côtés, le romancier Thomas Clair, maître de conférences à Paris-Ouest Nanterre. Après Maurice Saxe, le désœuvré et l'introspectif intérieur, il publie Poésie, 751 poèmes. Oui, l'homme n'est pas tout à fait fait pour les chiffres ronds, visiblement. Lyrique, obsessionnel. Bonjour à vous, Thomas Clair.
Bonjour.
Alors, Poésie, hein, comme EasyJet, un peu, Poésie, en anglais.
Oui, EasyJet, c'est une compagnie à la fois que je n'aime pas et en même temps qui permet aux gens de voyager à prix bas.
Donc c'est une traversée éclair et à moindre coût dans votre imaginaire,
non,
c'est ça.
C'est assez intéressant, parce que justement j'ai introduit cette notion de EasyJet dans le poème avec cette ambiguïté justement que finalement qui pourrait donc être rapprochée de la conception de la poésie que je me fais, à savoir de quelque chose qui finalement est déjà là en fait, mais qu'il suffit d'apercevoir. Pour moi, il y a crise de la poésie si et simplement on assigne à la poésie juste un art du langage plus ou moins sophistiqué. Alors là, il y a effectivement éventuellement une crise, mais si en revanche on pose ses yeux autrement sur le monde, on voit que la poésie est déjà là, et déjà partout, et donc à ce moment-là qu'il n'y a pas fondamentalement de crise.
Mais vous n'allez pas faire dans le low cost de la poésie quand même, Thomas Clair.
Pourquoi pas de certaine manière. Enfin, je n'irai pas jusque-là, mais j'aime bien l'idée que la poésie peut être finalement extrêmement présente dans des expériences, dans des états du monde, qu'elle préexiste au langage en fait.
Il y a urgence pour vous, Thomas Clair, le passage du récit, roman, nouvelle à la poésie, ça répondait à quoi ? Une urgence intérieure ?
Je voulais me débarrasser de mon livre précédent, donc intérieur, cette description, ce livre à programme en fait, qui était la description intégrale de mon appartement. Et donc j'ai eu besoin de sortir finalement de ces 50 mètres carrés, et je n'ai trouvé que la poésie comme solution, c'est-à-dire comme au sens où la poésie est une liberté fondamentale.
Un échappatoire mental.
Oui, et surtout, elle permet une extraordinaire liberté qu'on trouve un peu, par exemple, dans l'art contemporain aussi. Pour moi, la poésie, c'est l'art contemporain de la littérature, en fait. C'est-à-dire que tout y est. Il y a une liberté totale. En art contemporain, il y a une liberté absolument totale. On peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, l'art contemporain, c'est n'importe quoi au sens propre du terme.
Et vous êtes le Jeff Koons de la poésie?
Disons que la poésie, pour moi, doit, ce qui m'intéresse, c'est quand elle va dans cette direction. Non pas quand elle se replie de manière, je dirais, post-malarméenne sur son propre langage, mais au contraire quand elle vise à la totalité, c'est-à-dire qu'elle peut se trouver encore une fois dans un lapsus, dans un message de téléphone portable qu'on entend dans le métro, dans une phrase prononcée par un speaker, dans tout un ensemble de choses. Au fond, elle est dans toute manifestation langagière et même extra-langagière.
Olivier Barbaran, pourquoi choisir ? Et d'abord, faut-il choisir ? Parfois, roman et poésie se mêlent, quand le roman est avant tout poème, comme l'avait dit Claudel, et la ville, plus qu'un motif esthétique, le cœur de l'écriture poétique. C'est ce que vous montrez, c'est ce que vous soulignez dans Aurélien Paris Poésie, qui vient de paraître aux éditions Les Vanterniers. C'est une relecture du livre phare d'Aragon, Par vos soins, vous qui êtes d'ailleurs l'un et l'autre des hommes de mots. Quel pourrait être un peu le mot d'ordre, le slogan de cette manifestation, ces états généraux de la poésie ? Comment mobiliser et convoquer les esprits poétiques ?
J'ai du mal à passer justement par de l'ordre du slogan, pensant que le slogan est quelque chose d'affirmatif, de bref, de péremptoire, et il me semble que si la poésie apporte quelque chose, c'est justement cette manière de déverrouiller une possibilité romanesque, une possibilité doctrinale. Je me reconnais pleinement dans ce que vient de dire Thomas Clair sur cette dimension d'une présence quotidienne. Je suis d'accord avec l'idée que la poésie préexiste au poème, bien entendu, et il me semble que si j'ai pu titrer quelque chose comme ode dérisoire, c'est parce que l'une des crises de la poésie a été, elle a été coupable de cela, comme une certaine branche de l'art contemporain, le repli sur ses propres structures, ses propres structurations, son impossibilité de montrer qu'elle est constamment ce qui essaye d'agripper dans le monde ou dans notre vécu les choses qui font poésie et ce qui fait pli dans une existence. Voilà. Peut-être que le slogan, ce serait la poésie s'intéresse à ce qui fait un pli dans une existence, à ce qui froisse le tissu de la vie et le rend intéressant. sang. Et donc, on en a nécessairement besoin, et nécessairement besoin de le faire passer aussi par la langue. Parce que je crois que, pour certains, ces émotions peuvent passer par l'image, elles peuvent être transmises par l'image. Il y a quelque chose d'irremplaçable à les faire passer aussi en langue. Et c'est là où le poème se joue, hein, sans se replier sur un formalisme qui, sans doute, a participé d'une certaine forme de crise de la réception.
Mmh. Thomas Clair, un slogan.
Il n'en reste pas moins que le slogan est en même temps aussi une forme verbale. Et que donc, il y a aussi une affirmation dans le poème. Pourquoi exclure aussi, finalement, cette dimension chez Aragon, que vous connaissez beaucoup mieux que moi? J'aime beaucoup la période très politique, par exemple, de Front Rouge. Alors, il ne faut surtout pas en parler aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ces poèmes très, très violents, très politiques. J'ai essayé aussi, à ma mesure, finalement, de faire des poèmes satiriques, des poèmes... Voilà, un poème contre Alain Badiou, par exemple, ou des poèmes satiriques, des poèmes politiques. Ça aussi, ça doit faire partie de la poésie. Je crois que l'erreur, c'est de dire que finalement, c'est de chercher une sorte de pureté. Il faut au contraire qu'il y ait une impureté fondamentale du poème, dont fait partie également la compromission avec ce qu'il y a de plus circonstanciel. Au fond, moi, je plaide pour une poésie de circonstance. Et donc, la dimension, justement, polémique aussi, fait partie, pour moi, de la poésie. Elle a été exclue par la modernité, mais ça, c'est autre chose.
Olivier Barbaran, Thomas Clair, on l'écoute? Qui? Bah lui. Non, lui. Le seul, l'unique, Aragon. Ça fait déjà, ouais, voilà, trois fois qu'on l'a cité. Sur la difficulté pour la littérature, la poésie, de se saisir du politique, de dire le politique sans tomber dans le slogan Louis Aragon.
La littérature est faite, est un événement, et le roman doit être considéré comme tel. L'événement n'est pas une chose préfabriquée. Cette littérature engagée dont on me parle m'a l'air d'une littérature préfabriquée. Il m'arrive, je pense à certaines choses, elles me tiennent à cœur, j'en parle, je leur donne figure, elles passent dans les poèmes, dans les romans, c'est une autre affaire. Mais ça n'est pas parce que je me sacrifie, et que, au lieu de raconter les jolies histoires que j'ai sur les fleurs et les oiseaux pour lesquels j'étais peut-être fait, je décide de remplir mon devoir de citoyen en écrivant.
Non, mais ce qui est probable, c'est que vos adversaires, qui ne sont pas toujours de bonne foi, s'attendent à autre chose. Enfin, ils doivent se dire, Aragon devrait écrire sur les préoccupations qui sont...
Je me trouve en face de ce genre de revendication de la part de beaucoup de gens, qui d'ailleurs, lorsque je n'écris pas ce qu'ils considèrent, eux, comme de la littérature engagée, sont absolument indignés par moi. Mais ces braves gens, je leur demanderai simplement d'en avoir fait dans ce domaine autant que moi, et puis après, ils pourront venir me faire des reproches. Quand même,
Thomas Clair, dans Peau Easy. Les références à l'actualité au temps présent ne manquent pas. Attentats, des chances de nationalité, on retrouve quand même des évocations du temps présent, du temps dans lequel nous sommes. Vous êtes ouvert au monde aussi par votre écriture, par votre poésie. Mais alors comment faire pour articuler poésie et politique sans tomber dans la profession de foi?
Parce que, à titre personnel, je suis un mauvais sujet politique. C'est-à-dire que je n'ai pas une idée qui préexiste à ce que je vais dire. Je suis politiquement instable, comme beaucoup de gens, je pense, d'ailleurs. J'ai des opinions, certes, mais elles sont variables, elles sont... Donc le poème est le lieu où, finalement, une colère... Car pour moi, la dimension politique est toujours liée à la colère. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être mon livre le plus politique, même si, finalement, il n'y a pas que ça. Une colère doit trouver son point d'application verbal, sans être... l'expression d'une certitude, enfin je ne sais pas. Il y a une certitude de la colère, mais elle ne, ça ne se transforme pas en vision systématique du monde. Voilà.
À la fois déploration et protestation, dérisoire et essentielle, disiez-vous Olivier Barbaran. Vous défendez une poésie qui serait quoi? Non militante, mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui peut questionner le quotidien, qui peut questionner le réel, qui contient une forme de radicalité quand même dans sa manière de penser le monde. C'est aussi le rôle des poètes.
Oui, le fait que la poésie se greffe sur... tout dans la vie, du moment que quelque chose se passe, au moment où la vie n'est plus une sorte d'existence plate et aplatie, mais qu'il s'y passe quelque chose. La nature de l'émotion ou la nature de ce qui s'est joué n'a pas à rentrer en ligne de compte, qu'il s'agisse d'une émotion née d'un événement collectif et qu'on appellerait politique, ou qu'il s'agisse d'une émotion née d'une contemplation d'un visage dans le métro, dans tous les cas, il faut que la poésie fasse place. Simplement, j'ai constaté dans ma propre pratique que les pièges, bien connus désormais, mais les pièges d'une évocation du politique ou de l'historique sont souvent très grands. Sans doute, y en a-t-il aussi pour les pièges de l'évocation du désir, hein. À chaque fois, il y a un des maîtres mots, mais sans doute sont-ils à mes yeux plus grands en ce que la facilité d'une dimension sans doute peu exploratoire, la conviction qui préexiste à, ou quand il n'y a pas de conviction qui préexiste au texte, quelque chose comme une sorte de bon sentiment, où je n'aime pas sortir d'un texte que j'ai écrit avec l'idée que j'étais du côté du bien et que j'ai bien dénoncé les méchants. Je pense que le poème là ne sert strictement plus à rien, et en revanche il témoigne assez rapidement d'une réception, et qui est la réception dont je ne veux pas. C'est-à-dire la réception applaudissant de ceux qui se retrouvent. Il faut que le poème permette de créer quelque chose comme un trou et surtout pas quelque chose comme une fusion.
Thomas ?
Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles justement Aragon, il y a des périodes chez Aragon par exemple qui sont complètement blackoutées maintenant justement, et c'est cette période de Front Rouge à laquelle je faisais allusion, justement qui est une période très violente dans laquelle il dit qu'il voilà feu sur Léon Blum par exemple, bon ça passe difficilement. Bon, ben moi je trouve ça assez incroyable, même si je ne partage pas évidemment ce que dit le poème, mais enfin bon, c'est quand même intéressant dans la mesure où le poème s'approprie finalement des discours, des messages, des choses qui ne lui sont pas a priori destinées. Ça, je trouve ça très, très, très beau. C'est une liberté totale à ce moment-là. Et mais là, il faut surtout pas dire que voilà. Aragon n'a cessé de faire des palinodies par rapport à ses propres engagements. C'est assez intéressant.
La Grande Table en liberté totale avec vous, messieurs, jusqu'à midi et demi. Le romancier Thomas Clair qui publie Poésie, 751 poèmes qui parlent de lui, mais pas que. Et avec le poète Olivier Barbaran qui est avec nous et qui publie notamment cette anthologie Ode dérisoire et autres poèmes. Ça vient de paraître ou c'est paru chez Gallimard.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Il est midi 19 déjà sur France Culture. La poésie, c'est parler du monde autour de nous, mais c'est aussi un récit de soi fragmentaire, impressionniste chez vous, Thomas Clair, comme une coulée douce chez vous, Olivier Barbaran. Thomas Clair, ainsi s'ouvre votre journal dans votre voix.
Bonjour, laissez-moi me présenter. Bonjour, laissez-moi me présenter, je suis un homme peu courant, comme vous en rencontrerez peu. Je suis à vous dès que vous le voudrez, et même quand vous ne le voudrez pas, je serai à vos côtés, je suis disponible comme le vent. Mesdames et messieurs, ce soir nous allons passer une très bonne soirée, car je serai à vous. Sans arrêt, j'ai été engagé pour une longue durée. Je ne connais pas la précarité, j'ai avec moi, depuis sans atouts, des atouts redoutables, la joie et la santé. Je suis indestructible.
Indestructible. Voilà, et un peu plus loin, dans 1965, année de votre naissance, autoportrait. J'ai été baptisé Thomas, j'ai aimé les élégantes au look sexy, j'ai eu jeune des tendances royalistes, bien que je me considérasse comme un type de gauche. J'ai toujours voté pour des guillemets, j'ai été une sorte d'architecte littéraire. J'ai aimé la démocratie libérale, assortie de crises violentes. J'ai vécu à Paris, dans l'immeuble de l'écrivain des choses. Et mon père affairiste s'appelait Maurice Georges, et tigre, je ne suis pas d'un bloc, je parle sur bande enregistreuse qui défile la carte d'un homme qui se retourne, et encore cet homme. Voilà, autoportrait de vous, au fil de ces lignes, au fil de ces vers également, Thomas Clé. Dans « Je ne suis pas Victor Hugo », Olivier Barbaran, vous avouez préférer Chopin au rock, vous confessez une attirance pour le 19e et un attachement certain pour une tessiture, un rien révolu. Vous êtes deux dandys en fait, tous les deux, vous êtes deux auteurs inactuels. Donc vous êtes poète.
Inactuel au sens de Nietzsche dans ce cas, c'est-à-dire par ce petit pas de côté qui permet d'être au plein cœur d'une existence d'aujourd'hui et d'y lui apporter quelque chose. Enfin, la question c'est celle du contemporain. On est contemporain de quelque chose à la condition qu'on apporte quelque chose à son temps.
Thomas ?
Oui, on essaye de... Par rapport à la question politique, justement, comment concilier ce dandisme et cette politique ? Ben, c'est que finalement, on pourrait dire qu'il y a une politique de la singularité. Il faut essayer justement de redonner... je crois que chaque personne, finalement, chaque lecteur, chaque citoyen, chaque personne a cette dimension en elle de cette singularité. cette singularité comme politique de politique du style, finalement.
Et votre singularité à vous, Thomas Clerc, c'est justement d'être constitué de plein de petits bouts. L'homme qui tua Roland Barthes et autres nouvelles, c'est aussi de vous, un ouvrage paru en 2010 chez Gallimard. La forme du fragment, comme l'affectionnait Roland Barthes, justement, elle vous paraît quoi? Moins totalisante, moins totalitaire que celle du récit? C'est aussi pour ça que vous la travaillez aujourd'hui?
Disons que j'essaye de ne jamais refaire le même livre. C'est ce que je cherche littérairement. Et donc... Je m'identifie, on pourrait dire, en un sens, à la littérature dans sa dimension totale, évidemment. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir écrire de tout. Je ne veux pas être limité, finalement, par un genre. C'est la raison pour laquelle j'ai une œuvre assez diverse. Enfin, je cherche cette diversité, je cherche à ne pas trop me répéter, même s'il y a évidemment des obsessions qui reviennent, mais ce qui m'intéresse, et la poésie, finalement, n'a pas à être placée plus haut ou plus... Enfin, tout a une valeur. Pour moi, il peut y avoir de la poésie aussi bien, justement, dans un morceau de pop que dans une ode d'Horace. Voilà, c'est plutôt cette espèce de diversité que je cherche, de variété, exactement. Voilà, je pourrais dire que je suis un peu un poète de variété.
Il passe le temps, et voici justement Nicolas Dutemps, Olivier Barbaran. J'ai fait des efforts de rime, hein, vous remarquez?
J'y étais sensible.
Vous avez remarqué au moins. Bon, on a un poète dans l'équipe, un vrai, et il va lire un poème sans nom, c'est Nicolas Dutemps. Ce poème de vous, Olivier Barbaran, qui évoque la figure du père, le vôtre, et la ville d'Aix-en-Provence, extrait de Les élégies étranglées qu'on retrouve dans votre anthologie. Nicolas, à vous.
Tous ces murs faits pour le soleil, tachés de pluie, se font sinistres. Ce pays d'ocre et de cyprès ne supporte guère l'hiver. Je suis assis aux deux garçons, comme il y a 15 ans peut-être, avait surgi au petit matin une fanfare de fifres. C'était alors le jour des rameaux, et maintenant c'est à Noël. Le cours au Mirabeau sous la verse est peuplé d'étranges chalets, et du décor et d'étoiles bleues en toute ville interchangeable n'étaient les accents des parlers. Et la peau marbrée des platanes. Je pourrais me croire chez moi tant les nuits froides sont pareilles, en train d'attendre mes enfants, descendant d'un même manège. Un crépuscule, criblé d'or, cogne aux vitres de la terrasse. À la table exacte où jadis nous dînions après les spectacles, voilà. C'est à n'y pas croire plus d'un quart de siècle déjà. Mon père alors avait à peu de choses près l'âge que j'ai désormais. À cette époque, mes 16 ans servaient de mascotte à la troupe, qui parlait très tard des chanteuses et des beautés de l'opéra. On traversait sans y penser les clairs juillets de l'existence. À quoi bon d'ailleurs revenir à de telles banalités? Tout été se prend pour l'Éden et la jeunesse pour la vie. Peut-être faut-il s'en réjouir et laisser aller l'inconscience. On reconnaît la transparence à ce qu'elle fut inaperçue. Par les ruelles des vieux quartiers passaient des corps miraculeux. Dans des lacis de pierre et d'ombre, il fallait les suivre de près. Jusqu'à leur porte, et puis compter le temps d'arrêt, pour que la face retournée se fendant d'eux sur un sourire, l'éclair déjà porteur des promesses d'après. À ma table des deux garçons ne s'attablent que des regrets. J'ai vu ce jour mon père, ou tout du moins ce qu'il en reste. J'ai pour tout vis-à-vis le spectacle de sa détresse. Je suis assis dans mon passé, chaque flaque m'est un reflet, et le propre de la mémoire est qu'à chaque pas, l'on s'y blesse.
Merci Nicolas Dutemps. Olivier Barbaran, à vous entendre l'un et l'autre, Thomas Clerc également. On est quand même très loin de la poésie qu'on apprenait sur les bancs de l'école. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de forme assignée à la parole poétique, aux mots poétiques. Et on sent quand même, dans cette manière extrêmement coulante, effectivement, que vous avez d'écrire Olivier Barbaran, on se rapproche vraiment du roman. C'est une poésie romancée ou un roman poétique, finalement, ce que vous écrivez?
Je ne sais pas, j'ai toujours été absolument incapable d'envisager une forme de variété dans mes écrits, sinon une variété formelle. C'est-à-dire que je suis incapable de récit, je veux dire incapable de raconter une histoire, et surtout incapable de raconter une histoire, ou surtout d'en inventer une. Voilà, c'est une limite avec laquelle je vis, et donc je ne peux faire qu'avec ce que m'apporte l'existence, dans des formes, elles, qui sont relativement variées. Et pour ce qui est de cette question de la poésie apprise à l'école, Je ne suis pas sûr, je crois que tout lui est permis encore. J'ai été très frappé de voir surgir, moi qui en avais une peur considérable, à l'occasion justement de la question de la mort, dans le dernier recueil, Les élégies étranglées, des formes comptées, rimées, qui sont un peu loin de mon verset à rate prose, ou qui essaye justement de travailler le plus souvent sur une aventure de la voix plus déliée. La poésie n'est pas identifiable ou assignable à une forme aujourd'hui, en effet. L'a-t-elle jamais été? Je n'en suis pas certain. On a rouvert un peu d'avant les choses. La vraie question pour moi, c'est celle essentielle d'une forme qui ne doit pas faire monument. Je pense que si... Je me reconnais pleinement dans ce qui a été dit sur cette poésie. Alors le piège, c'est de ne pas tomber dans une sorte de contingence qui se brandirait comme purement factuelle et contingente. Il faut être dans le quotidien, mais juste à côté de lui, mais il faut le faire dans quelque chose qui garde une sorte de mémoire des formes, si j'ose dire, comme certains matelas, vous voyez, et je crois qu'il y a dans mon écriture une mémoire des formes.
Des états généraux de la poésie et un grand marché de la poésie qui se tiendra donc à partir de mercredi prochain, Olivier Barbaran, Thomas Clerc, un autre rendez-vous juste à vous indiquer, parce qu'il commence aujourd'hui, ouverture aujourd'hui jusqu'à dimanche du Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau qui met à l'honneur un thème, la nature et un pays, les États-Unis, avec un programme bien rempli de tables rondes et de conférences. En parrain de cette 7e édition, l'américain Jeff Koons qui prononce en ce moment même d'ailleurs sa leçon inaugurale, et ça donne quelque chose comme ça.
Pour moi, ce que l'art est, ce qui me stimule dans l'art, ce sont des choses qui excitent mes sens. Je me sens biologiquement plus vivant en regardant une image. J'ai les doigts qui deviennent plus sensibles, ma vue est plus précise et j'ai le sentiment d'entendre plus de choses. Il y a cette stimulation sensuelle que provoque l'art. Et cela provoque des idées, des sentiments aussi. Par les sentiments, on a des idées. Et c'est ça auquel je veux répondre. Et la base de tout ça, c'est la beauté. La beauté est une stimulation que nous vivons et à laquelle nous sommes attirés. Et d'être capable d'être émerveillé et de s'ouvrir devant, à notre avenir, d'avoir un avenir plus large, d'expérimenter cette transcendance, eh bien, ça vient de ça. Ça vient de s'abandonner, de trouver quelque chose de plus grand que soi-même.
Beauté, sensualité, transcendance, vous voyez, on a rejoint avec Jeff Koons l'art de la poésie. Et puis à noter aussi que le romancier Jean Rouault, prix Goncourt, dans son dernier recueil, se réjouissait du Nobel de littérature attribué à Bob Dylan pour avoir ouvert à de nouvelles expressions poétiques et politiques, peut-être aussi une bonne nouvelle, j'imagine, aussi pour vous, Olivier Barbaran. Aurélien Paris, poésie, c'est un de vos recueils récits qui vient de paraître aux éditions Les Venterniers. À noter aussi vos odes dérisoires parues chez Gallimard. Merci aussi à vous, Thomas Clerc, pour Poésie, votre recueil de 751 poèmes. Maintenant, ça y est, on se souvient du chiffre et du bon numéro. Merci à vous, merci à tous les deux.